Alors, chers amis, un grand merci d'être venus pour écouter cette conférence très attendue d'Anouk Vary, qui a pris contact avec nous il y a déjà au moins 6 mois, même plus, pour nous annoncer sa recherche. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier la professeure Sarah Scholl, avec laquelle nous avons quelques moments de partage au sujet de Gustave Adore. Et pour nous, c'est extrêmement encourageant et stimulant de voir que, je dirais, enfin, nous avons des universitaires qui s'intéressent à ces questions tout à fait fondamentales. Comment se fait-il que des protestants pratiquants, convaincus, voire missionnaires, si je pense à Pierre ou à Dunant, ce sont vraiment des missionnaires. Dunant, à certains moments, quasiment un fou de Dieu, hein, c'est tout à fait impressionnant. Comment se fait-il que ces hommes de foi, au moment où ils inventent le mouvement humanitaire, c'est véritablement qu'ils ont créé une nouvelle problématique telle qu'elle n'avait jamais été posée auparavant dans toute l'histoire de l'humanité, comment se fait-il qu'ils fassent un choix extrêmement surprenant? C'est que leur institution va soigner, va aider, va assister des personnes vulnérables, donc des personnes en faiblesse, c'est-à-dire des personnes qui sont particulièrement réceptacles à des propos d'évangélisation. Comment se fait-il que ces hommes décident de créer un mouvement qui soit réellement neutre? Et Anouk a même pris l'adjectif laïque qu'on n'avait jamais utilisé et qui est tout à fait cohérent par rapport à cette institution de la Croix-Rouge, donc fondée par ces 5 protestants, genevois et des hommes de foi et d'engagement. Donc, nous savons qu'Anouk prépare un master en théologie et elle nous fait la primeur de sa problématique. Et je lui laisse donc tout de suite la parole. Je sais que vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez ensuite. Et nous nous réjouissons ainsi de découvrir. La conférence s'est enregistrée. Stéphane Lambert, ici présent, nous tirera un podcast. C'est un gros travail parce qu'après, il faut nettoyer tout l'enregistrement, des hésitations, des chaises qui grincent, etc. Mais ça nous laisse un document tout à fait utilisable que vous pourrez consulter sur Internet. Et puis, j'espère bien, il faudra que je voie et avec Anouk et avec Sarah, si on peut ensuite publier le texte de cette conférence, parce que pour nous, c'est tout à fait nouveau. Donc, merci d'être là, merci à nous et courage. Merci.
Donc, bonjour à tous et bienvenue. Je suis très reconnaissante d'être ici et je tiens à remercier chaleureusement M. Roger Durand de m'avoir proposé de présenter mon dossier de recherche dans le cadre de cette conférence. Je remercie également Mme Scholl qui m'accompagne et qui m'encadre dans cette recherche. Merci au public aussi pour votre présence ce matin. Aujourd'hui, je me propose avec vous d'étudier la thématique de mon mémoire, qui repose donc sur les ancrages identitaires de la Croix-Rouge, en mettant un accent sur la foi de ses fondateurs, en particulier celle d'Henri Dunant. Voici le plan de ma conférence. Tout d'abord, j'évoquerai l'objet de ma recherche, en quoi il consiste précisément. Dans un second temps, j'aborderai les convictions de jeunesse d'Henri Dunant. Et enfin, dans un troisième temps, j'analyserai Castiglione comme point de départ de la Croix-Rouge. Voilà. Tout d'abord, rappelons le contexte de mon étude. Genève est historiquement un centre de la philanthropie dont une de ses œuvres majeures constitue la Croix-Rouge. Elle est inspirée par l'ouvrage d'Henri Dunant, Un souvenir de Socorro, Et cette initiative, elle émerge dans un contexte de réveil religieux dans la première moitié du XIXe siècle, qui influence fortement la société genevoise, y compris du Mans, qui, lui, grandit dans une tradition protestante fervente. Avec d'autres figures clés comme Gustave Moyer, le général Guillaume-Henri Dufour et les deux médecins Louis Appiah et Théodore Renoir, tous influencés par le mouvement protestant, le projet de la Croix-Rouge se concrétise. Toutes ces figures sont convaincues par le mouvement protestant et pourtant ils vont décider de faire un projet humanitaire laïque qui se dissocie complètement d'une identité confessante. Cette conférence aura donc pour but d'éclairer ce paradoxe. Le mémoire que je suis toujours en train de finaliser aborde ce questionnement. Comment la Croix-Rouge, née d'une inspiration confessionnelle, conduit à l'émergence d'une organisation humanitaire internationale au contour laïque. En termes simples, je cherche à comprendre comment des personnalités protestantes convaincues proposent un projet laïque. Dans cette conférence, j'aborderai essentiellement mes deux premières parties, en me proposant d'examiner le processus à travers lequel les convictions et les engagements chrétiens de Dunant façonne les débuts de la Croix-Rouge en restituant du mieux que je peux l'état de mes recherches actuelles. Je passe maintenant à ma première grande partie. Cette section va se pencher sur la foi personnelle d'Henri Dunant durant sa jeunesse et son enracinement profond dans un christianisme protestant. À travers l'analyse de plusieurs biographies, entre autres celle de Gabriel Mutzenberg, Alexis François, Corinne Chaponnière ou encore Roger Durand, et d'autres travaux historiques, nous couvrons la période de 1828 à 1852 pour comprendre les influences qui ont façonné ses convictions et son engagement humanitaire. Mon étude va débuter par une exploration du contexte religieux et social de Genève au XIXe siècle, en soulignant l'impact du réveil protestant et de l'éducation religieuse sur Dunant. Je mettrai ensuite en lumière ses premiers engagements chrétiens, notamment son rôle actif au sein des unions chrétiennes de jeunes gens de Genève, sous la colonne UCJG, qui reflète la fusion de sa foi et de son action sociale. Passons maintenant au contexte historique et religieux de la Genève du XIXe siècle. Durant le XIXe siècle, la ville de Genève est profondément marquée par le calvinisme et traverse des périodes significatives de réforme ecclésiale. C'est dans ce cadre-là que Henri Dunant grandit, fortement influencé par les mouvements du réveil protestant. Ce mouvement de renouveau spirituel émerge avec force lors de sa seconde vague à partir de 1831. Elle cherche à revitaliser une foi personnelle et encourage une approche de la lecture biblique quoique non critique. Le réveil conduit à l'établissement de la Société évangélique, qui est une organisation dédiée à l'évangélisation et à l'éducation religieuse, notamment par le biais du colportage. Alors qu'est-ce que c'est le colportage? C'est une distribution de matériel religieux, par exemple des textes bibliques, enfin des traités bibliques, le Nouveau Testament, etc. Mais elle est également par le biais de création d'écoles du dimanche. Des figures clés telles que les pasteurs Louis Gosson, Antoine, Jean-Louis Galland et Jean-Henri Merle de Bigné jouent un rôle crucial dans ce mouvement. Leur engagement ne se limite pas à la sphère spirituelle, mais elle s'étend également à des initiatives philanthropiques. Ainsi, Dunant incarne cette époque de profonde spiritualité et d'activisme social, qui illustre comment une foi profonde peut se manifester par des actions qui visent à améliorer le bien-être de la société. Voilà, intéressons-nous maintenant à son milieu social. Henri Dunant est l'aîné des 5 enfants de Jean-Jacques et Anne-Antoinette Dunant. Il est issu d'une famille de la bourgeoisie moyenne genevoise qui est profondément enracinée dans une tradition calviniste de l'Église nationale. Il naît le 8 mai 1828. Il est baptisé 3 mois plus tard au temple du Petit Saconnet, qui est un lieu emblématique où ses parents et même ses grands-parents se sont mariés. Dès son enfance, il est imprégné des valeurs du christianisme, héritant d'une foi protestante de sa famille et de son environnement genevois. Les figures maternelles, telles notamment sa mère, Anne-Antoinette et sa tante Sophie, vont jouer un rôle majeur dans son éducation religieuse. Elles vont lui inculquer une profonde sensibilité à la souffrance humaine et un engagement envers les nécessités. Son père, Jean-Jacques Dumont, est un membre influent du conseil représentatif et de la chambre des tutelles. Il s'engage également dans la protection des orphelins, exposant ainsi son fils, dès son plus jeune âge, à la compassion envers les plus démunis. Les biographes s'accordent pour dire que les engagements philanthropiques de Dumont sont profondément ancrés dans cet héritage familial. Cette exposition précoce à cette charité chrétienne et aux injustices sociales façonne la conscience et les actions futures d'Henri Dumont, qui contribuent largement à son parcours exceptionnel dans le domaine humanitaire. Maintenant, je vous propose de parcourir l'influence du réveil protestant sur Henri Dumont. Dès son plus jeune âge, il a été profondément intégré dans le milieu évangélique de Genève. Cette intégration résulte notamment de l'environnement religieux influent dans lequel il évoluait. Cette analyse est renforcée par une importance accordée à la transmission d'un christianisme fervent par les figures maternelles de sa vie, qui l'ont introduit au sein de ce réseau évangélique. Des historiens tels que Gabriel Nussenberg et Alexis François attestent de cette influence significative du mouvement du réveil sur Dumont. Ils vont indiquer notamment que l'éducation religieuse qu'il a reçue, en particulier à l'école du dimanche, l'oratoire, a marqué profondément ses convictions. Ils affirment que les écrits et la correspondance de Dumont montrent clairement l'empreinte de cette mouvance, révélant une conviction personnelle ancrée dès sa jeunesse. Ces historiens mettent également en lumière l'influence de grandes figures emblématiques du réveil, comme le pasteur Louis Gosson, que j'ai mis ici, sur sa formation spirituelle. Bien que les preuves formelles de la participation active de Dumont aux activités de la société évangélique soient peu nombreuses, l'ensemble des travaux historiques suggère fortement que son orientation et son éducation religieuse ont été profondément influencées par son immersion dans le milieu évangélique genevois. Cette immersion, façonnée par les influences familiales, voilà. Bien que les preuves, où est-ce que j'en étais, je reprends mon récit. Voilà, je disais, donc, cette immersion façonnée par les influences. Cette immersion façonnée par les influences familiales et les enseignements reçus a été déterminante dans la formation de ses convictions et de son engagement chrétien, qui ont par la suite caractérisé son œuvre humanitaire et la fondation de la Croix-Rouge. Passons volontiers maintenant à son éducation religieuse. En ce qui concerne son éducation religieuse, Henri Dumont a commencé sa formation académique au Collège Canon, que l'on voit représenté ici en arrière-fond. Alors, il se distingue par un enthousiasme marqué pour la religion. Alors ça, je l'apprends de l'ouvrage Le Prédestiné de Gabriel Nussenberg. Il brille particulièrement dans ce domaine. Il va recevoir plusieurs distinctions en religion pendant 3 années consécutives. Ce collège, nommé en l'honneur du réformateur Jean Calvin, est emblématique des principes de la réforme protestante qui valorise grandement l'éducation religieuse et son instruction. Le cadre éducatif est donc profondément enraciné dans la foi protestante qui reflète les valeurs de la société genevoise du XIXe siècle. L'environnement éducatif et culturel de Genève de cette époque a joué un rôle clé dans le façonnement des valeurs et des convictions d'Henri Dunant, influençant ses croyances et son éthique personnelle. En somme, on peut confirmer que l'instruction reçue au Collège Calvin a non seulement cultivé son intellect, mais a également nourri son engagement spirituel et moral qui caractérisera plus tard son action humanitaire à l'échelle mondiale. Je vais préciser maintenant son rôle fondateur dans la création des unions chrétiennes de jeunes gens. Inspiré par l'exemple de l'Union chrétienne des jeunes gens de Paris, fondée sous l'impulsion de Jean-Paul Cook et de deux étudiants en médecine de Genève, un comité se forme à Genève en 1852. Composé de Henri Lulin, Henri Dunant, Maximilien Perrault et Louis Rosselet, ce comité se réunit pour élaborer les règlements de l'Union chrétienne de Genève. Après plusieurs délibérations, les statuts de l'Union sont finalement adoptés le 20 octobre et le comité officiel est élu une semaine plus tard. Les membres de ce comité incluent Maximilien comme président, Henri Hulin comme vice-président, Gustave Pictet comme secrétaire, Henri Dunant comme secrétaire correspondant, Louis Joanneau comme trésorier et Louis Rosselet comme bibliothécaire. On voit apparaître ici à droite une des premières pages des procès-verbaux des séances des membres en 1852. Le 30 octobre 1852, l'Union inaugure son premier local au 115 rue des Chanoines. Cette nouvelle installation comprend une salle de lecture et une pour les études bibliques et une bibliothèque circulante. Cette date marque un moment clé avec la tenue de la première assemblée des membres fondateurs lors de laquelle les statuts de l'Union sont formalisés et diffusés pour promouvoir les principes fondateurs de l'organisation. Henri Dunant, alors âgé de 24 ans, joue un rôle crucial dans ce processus. C'est notamment dans une des études de Guy Lecomte que je trouve cette analyse. Il rassemble un nombre croissant de jeunes grâce à son leadership dynamique et sa capacité de persuasion. En tant que secrétaire correspondant, Dunant facilite les communications entre plus de 150 unions locales qui contribuent ainsi à la création d'un réseau mondial qui mènera à l'établissement ultérieur de l'Alliance universelle des Unions de Genève en 1855. Alors voilà, cette partie s'intitule « Contribution d'Henri Dunant à la formation d'un réseau d'engagement chrétien ». C'est notamment à travers ses correspondances et ses circulaires qu'on retrouve cette spiritualité fervente. Je vais d'abord passer aux correspondances que j'ai étudiées énormément. C'est une correspondance échangée avec le pasteur français Édouard Monnier. Et j'ai notamment pu avoir en ma possession quelques-unes de ces correspondances grâce à l'archiviste Claude Alain Dante, de la YMCA internationale, qui se situe d'ailleurs à Genève. Dans cette correspondance, j'ai pu observer toute la ferveur religieuse de Dunant, caractérisée notamment par un discours imprégné d'une spiritualité chrétienne ardente, qui évoque un langage typique du mouvement du réveil. Dans ses lettres, il affirme qu'il se consacre passionnément au colportage et à l'évangélisation, ce qui témoigne de cette énergie missionnaire. Ses écrits montrent également sa détermination à propager le message chrétien. En résumé, cette correspondance offre un aperçu précieux des convictions profondes de Dunant, de ses efforts missionnaires et de son rôle initial dans la promotion du christianisme et de l'évangélisation, qui marque les débuts d'un réseau international d'engagement chrétien initié par lui-même. Enfin, l'analyse de la spiritualité de Dunant révèle une approche d'un christianisme axé sur l'action et le témoignage, illustrant sa contribution significative à la création d'un réseau international dédié à l'engagement chrétien. C'est notamment cette circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est une circulaire ? C'est un document, dans lequel on partage les différentes activités des unions, c'est à titre informatif. Et ces documents, donc ces circulaires, révèlent ses croyances personnelles. Dans mon travail de recherche, j'ai réalisé l'analyse d'une circulaire en particulier, qui sont d'ailleurs assez difficiles à trouver, mais elle m'a été transmise par M. Roger Durand, et il s'agit de la 6e circulaire. Elle expose son idéal organisationnel qui promeut l'engagement communautaire, l'initiative personnelle et l'unité dans la diversité. Sont aussi développées des idées œcuméniques et son internationalisme. Ces principes lui inspireront plus tard la fondation de la Croix-Rouge. Je passe maintenant à ma deuxième grande partie. Voilà, donc cette section explore le rôle de Castiglione, lieu où sont rassemblés les blessés de la bataille de Solferino, qui est situé à quelques kilomètres du champ de bataille. Mais c'est un lieu également où Henri Dunant reçoit une révélation qui mène à la fondation de la future Croix-Rouge. Après avoir été témoin des horreurs de la guerre, il publie un ouvrage, Un souvenir de Solferino, qui est comme un catalyseur de la création de l'organisation humanitaire internationale. Ma recherche couvre la période de 1859 à 1862 et analyse les circonstances qui conduisent à l'émergence de cette création de la Croix-Rouge. Elle s'intéresse enfin aux éléments chrétiens dans le récit de Dunant, questionnant si son expérience et ses écrits reflètent la foi de sa jeunesse et les principes chrétiens dans le cadre de la naissance de la Croix-Rouge. Reconstituons ensemble le contexte de la bataille de Solferino. En 1859, sous l'impulsion de Camillo Bezzo, comte de Cavour et ministre du roi Victor Emmanuel II de Piémont, une alliance est formée avec l'empereur français Napoléon III, afin de combattre l'Autriche dans le cadre de l'unification italienne. Cette collaboration déclenche la seconde guerre d'indépendance italienne. La campagne atteint son point culminant avec la bataille de Solferino le 24 juin 1859, qui se solde par une victoire cruciale franco-piémontaise, permettant ainsi l'annexion de la Lombardie. L'importance de cette bataille est capturée dans une œuvre d'Adolphe Yvon, un peintre français, qui illustre Napoléon sur le Mont Fénil, orchestrant l'engagement de la garde impériale pour s'emparer des positions stratégiques de Solferino. Ce tableau met donc en avant le rôle déterminant de Napoléon III en tant que stratège. Il est également important de noter que la bataille de Solferino est caractérisée par des pertes humaines considérables et une préparation insuffisante, en particulier sur le plan médical. Dunant l'observe dans son ouvrage et il le décrit. La tragédie de cette bataille met en lumière les lacunes logistiques et les lacunes sanitaires à l'hôpital de campagne à Castiglione, où les médecins étaient complètement débordés par le nombre élevé des blessés. Cette catastrophe sanitaire a eu des répercussions profondes sur la prise de conscience des besoins en matière de soins médicaux et dans les conflits armés, soulignant ainsi la nécessité d'amélioration significative dans ce domaine. Maintenant, je vais passer à plusieurs figures humanitaires qui annoncent en quelque sorte la Croix-Rouge. Les premières mobilisations ici, je retrace Louis Appia. Au début de la campagne d'Italie, le docteur Appia, précurseur de la Croix-Rouge et personnalité éminente dans les cercles évangéliques, Il est membre de la Société évangélique tout comme Henri Dumont. Il initie une campagne humanitaire via le journal de Genève. Il appelle à des donations de charpie et de pansements pour assister les blessés de la guerre. Il parvient à envoyer 2 tonnes de matériel médical aux hôpitaux de Piémont et de la Lombardie, où il se rend également pour superviser l'administration des blessés. Des soins. Les expériences d'Apia sur le terrain l'incitent à innover en matière de chirurgie de guerre. Il décrit ses observations dans un ouvrage intitulé « Le chirurgien à l'ambulance ». Il inclut également une correspondance avec Théodore Monnoir, qui est son ami, mais qui est également le futur cofondateur de la Croix-Rouge. Cette correspondance révèle une réflexion approfondie sur les pratiques médicales en contexte de conflit, teintée par une vision évangélique marquée par l'humilité et la providence. Cette perspective est encapsulée dans une citation d'Ambroise Paré que Appia fait sienne. Ici, je cite « Je le pensais, Dieu le guérit ». Ce dialogue entre Appia et Monnoir souligne la fusion entre innovation médicale et principes spirituels qui jettent les bases éthiques et pratiques de ce que deviendra la Croix-Rouge. Passons maintenant à la comtesse de Gasparin, une héroïne humanitaire. Valérie Boissier, également connue sous le nom de Madame la comtesse Agénor de Gasparin, a joué un rôle important dans le domaine de la philanthropie à Genève au XIXe siècle. Sa contribution à l'humanitarisme commence durant la guerre de Crimée, période pendant laquelle elle mobilise des ressources significatives en faveur des soldats blessés. Poursuivant sur cette pensée, elle fonde à Lausanne la première école laïque d'infirmières baptisée La Source, marquant une étape clé dans l'évolution des soins infirmiers en Suisse. Son engagement prend une dimension supplémentaire lorsqu'Henri Dumont, bouleversé par les atrocités de la bataille de Solferino, sollicite son aide pour secourir les blessés. Il lui écrit une lettre. En réponse, Madame de Gasparin facilite la publication de quelques extraits de cette correspondance dans différents médias. Une initiative qui joue un rôle clé dans la mobilisation de soutien financier et l'organisation de secours. Cette action ne se limite pas seulement à une aide ponctuelle, mais elle illustre son dévouement au christianisme humanitaire et préfigure les principes qui sous-tendront la création de la Croix-Rouge. La Société évangélique en action. C'est précisément le 29 juin 1859, lors d'une assemblée générale qui est tenue à l'oratoire à Genève, où Jean-Henri Merle d'Aubigné, vice-président du comité de la Société évangélique, prononce un discours marquant qui sert de catalyseur à l'engagement humanitaire chrétien pour les blessés de la guerre en Lombardie. Il appelle la communauté chrétienne à adopter le rôle des Samaritains, qui souligne donc l'urgence d'une aide tant matérielle que spirituelle. Ce plaidoyer constitue un moment déterminant dans l'histoire de l'assistance humanitaire, préfigurant les principes de neutralité et de compassion qui seront plus tard au cœur de l'action de la Croix-Rouge. L'effet immédiat de l'appel de Marie d'Aubigné fut la collecte de plus de 2000 francs et la constitution d'un comité provisoire chargé de soutenir les blessés. En outre, 3 étudiants en théologie sont dépêchés en Italie pour apporter un soutien à la fois matériel et spirituel, incarnant ainsi l'engagement chrétien appelé dans son discours. On le voit ici, je l'ai renseigné, c'est une inscription qui figure dans la chapelle de l'oratoire. Je peux le lire avec vous. Bon, il manque le début. Je vais commencer comme ça. La Société évangélique de Genève, le professeur Jean-Henri Merle d'Aubigné, reprenant le vœu du docteur Louis Appia, adressa aux chrétiens, fils du réveil, un appel solennel auquel répondirent Charpio, Estrabo, j'ai un peu de mal à dire.
Cône et Vautier,
étudiants français et belges à la faculté de théologie de l'Oratoire, première mission internationale de secours aux blessés sur les champs de bataille de Lombardie, humble prélude de l'œuvre de la Croix-Rouge. Donc voilà, je passe maintenant à Solferino, enfin à l'ouvrage Un souvenir de Solferino. Je vais d'abord présenter sa structure et un extrait du sentiment chrétien que Dumont partage dans cet ouvrage. Après son retour à Genève, Henri Dumont publie en 1862 un ouvrage intitulé Un souvenir de Solferino, que vous connaissez tous, et qui est là également. Voilà, j'ai trouvé à la bibliothèque. Il est énorme. Alors, il documente dedans ses observations de la bataille et les conditions des soins apportés aux blessés. Selon l'analyse ici de François Bunion, historien auquel je me réfère pour la structure, il distingue trois parties. La première offre une description de la bataille où Dunant s'efforce de maintenir une posture neutre, bien qu'il manifeste une certaine sympathie pour le côté français. La seconde partie du texte, de nature un peu plus personnelle, dépeint les souffrances endurées par les soldats blessés et vont décrire les initiatives personnelles de Dunant pour leur porter assistance. Cette partie marque la transition de Dunant de témoin à acteur humanitaire. Enfin, la troisième partie de l'ouvrage est prospective. Elle propose des solutions pour améliorer le sort des blessés de guerre. Dunant, il plaide pour la création de principes internationaux qui protégeraient et reconnaîtraient le travail des volontaires et des sociétés de secours. Cette proposition jette les bases de ce que deviendra le droit international humanitaire. Donc, en résumé, Un souvenir de Solferino ne se contente pas de relater des faits historiques, mais il constitue également un plaidoyer influent pour une réforme humanitaire qui établit les fondements éthiques et pratiques de la future Croix-Rouge. Maintenant, je passe à cet extrait chrétien. Je vous partage mon analyse du sentiment chrétien partagé dans l'ouvrage. Il en existe plusieurs, mais pour cette conférence, j'ai choisi d'en étudier une. Elle se trouve dans les dernières pages de son ouvrage. Henri Dunant lance un vibrant appel à l'engagement humanitaire et il s'adresse à tous, indépendamment de leur statut social ou de leur genre. Ce plaidoyer pour l'universalisme et l'internationalisme de l'action humanitaire reflète ses actions de jeunesse, comme témoigne par exemple son initiative de créer l'Alliance universelle des unions chrétiennes en 1855. Dunant était fermement convaincu que les actions d'envergure devaient nécessairement interpeller les individus de tous les pays. Il articule cet appel en ces termes, je lis maintenant. Un appel de ce genre s'adresse aux dames comme aux hommes, à la grande princesse assise sur les marches d'un trône, comme à l'humble servante orpheline et dévouée, ou à la pauvre veuve isolée sur la terre et qui désire consacrer ses dernières forces au bien de son prochain. Ce passage, en le lisant, j'ai cru lire une parabole de Jésus. Il met en lumière l'universalité de l'appel à la solidarité et à l'action humanitaire. Il s'appuie sur un vocabulaire évangélique. La mention de la pauvre veuve qui désire consacrer ses dernières forces au bien de son prochain évoque, à mon avis, directement un épisode biblique que l'on trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Marc, au verset 41 et 44. Je cite « Assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. De nombreux riches mettaient beaucoup. Vint une veuve pauvre qui mit 2 pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit « En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc, car tous ont mis en prenant sur leur superflu, mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Cet épisode, relate une veuve offrant, malgré sa grande précarité, ses 2 dernières pièces au trésor du temple, ce qui démontre sa grande générosité et son abnégation extraordinaire. Jésus souligne que cette veuve a donné plus que les autres donateurs, car elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qui lui permettait de vivre. Dunant va utiliser cette image pour illustrer l'idéal chrétien de l'engagement total envers autrui, même dans des circonstances extrêmement difficiles. En faisant ce parallèle, Dunant renforce l'idée que l'action humanitaire et la compassion ne sont pas l'apanage des plus fortunés, mais sont accessibles à toute personne animée par un esprit d'altruisme et de générosité. L'invocation de cet exemple biblique enrichit la réflexion sur l'importance de l'engagement désintéressé envers les autres, un principe issu de la tradition chrétienne dans le cadre de l'action humanitaire. Donc c'est la fin de ma conférence. Peut-être que je vous partage maintenant où j'en suis dans ma recherche. Et je vous remercie d'ailleurs pour l'écoute de mon exposé. Donc, actuellement, au niveau de ma recherche, je me propose d'analyser la réception de l'ouvrage de Solferino, notamment dans le cercle protestant genevois. Par exemple, les figures telles que Maximilien Perrault, Louis Gossin. J'essaie d'étudier la réception et les correspondances qui lui sont attribuées et qui mentionnent l'ouvrage et de voir en fait comment il réceptionne ce projet humanitaire. Comment il le conçoit. Enfin, je vais m'arrêter.